Voix Afrique, les infos à Washington.
Eric Manilakiza, 16h temps universel, heureux de vous retrouver, bienvenue. Le président tchadien a affirmé que Boko Haram est décapité. Le président tchadien estime que le défi est maintenant d'éviter les actions terroristes dans la région du lac Tchad. Nicolas Pinault a les détails.
Oui, à l'occasion de la célébration du 55e anniversaire de l'indépendance du Tchad, Idriss Déby a affirmé que Boko Haram n'était aujourd'hui constitué que de petits groupes éparpillés dans l'est du Nigeria, à la frontière avec le Cameroun. Le président tchadien assure que les différentes armées de la région sont en mesure de mettre définitivement hors d'état de nuire Boko Haram. Mieux, Idriss Déby assure que la guerre contre Boko Haram sera terminée d'ici la fin de l'année grâce à l'action de la force mixte composée de soldats du Nigeria, du Tchad, du Cameroun, du Niger et du Bénin. Le chef de l'État a également évoqué pour la première fois un successeur d'Aboubakar Shekau, présenté jusqu'alors comme le chef du groupe et qui n'est plus apparu sur les vidéos de propagande de Boko Haram depuis plusieurs mois. Il y a quelqu'un qui s'appellerait Mahamat Daoud et ce dernier veut négocier avec le gouvernement nigérian. Moi, je conseillerais de ne pas dialoguer avec un terroriste, a affirmé Idriss Déby sans fournir davantage de détails. Affaibli, les djihadistes ont néanmoins réussi à multiplier ces dernières semaines les attentats suicides meurtriers au Nigeria, au Cameroun et au Tchad.
Nicolas Pinault, au Burundi, la communauté internationale inquiétée par l'abrogation de l'esprit et la lettre de l'accord d'Arusha, garant de la paix et de la stabilité qui a permis à ce pays de mettre fin à la guerre civile prolongée. La semaine dernière, la nouvelle Assemblée nationale, issue d'un scrutin controversé boycotté par l'opposition et la société civile, jugé non crédible par l'ONU, a supprimé les quotas assurant l'équilibre ethnique et de genre dans son bureau. Les envoyés spéciaux de plusieurs puissances occidentales et des organisations internationales, dont l'ONU et l'Union africaine, ont préféré s'exprimer d'une même voix. Dans un communiqué conjoint, ils estiment que le régime de Bujumbura ne peut pas se permettre de continuer à plonger le pays dans l'instabilité, la division, le déclin économique extrême et la crise humanitaire. Déjà l'une des économies les plus fragiles dans le monde, l'économie du Burundi a chuté encore ces derniers mois et montre peu de signes qu'il peut récupérer en l'absence d'une résolution de la crise politique. Les bailleurs de fonds ont clairement indiqué que leur volonté de continuer à collaborer avec le gouvernement conditionnée des progrès vers le rétablissement de références démocratiques du pays à travers un dialogue sérieux et inclusif, conformément à l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi. Les Nations Unies ont rappelé aujourd'hui à cesser immédiatement les arrestations extrajudiciaires en République démocratique du Congo, estimant qu'elle nuise à la crédibilité du processus électoral. Le Bureau des droits de l'homme en RDC s'était déjà dit très préoccupé par la disparition depuis samedi à Kinshasa de Bienvenu Matumo, l'un des militants les plus actifs du mouvement Lutte pour le changement à Lucha et diplômé de la première promotion de la nouvelle École nationale d'administration, ENA. Le président en exercice de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, des CEAC, le chef de l'État gabonais Ali Bongo Ondimba a signé un décret pour prolonger la transition politique en République centrafricaine du 18 août au 30 décembre 2015. Une décision pour rassurer les autorités de Bangui qui font face à diverses contestations. Jacques Aristide.
La tension est montée d'un cran ces derniers jours dans les milieux politiques et de la société civile qui estiment que la transition a trop duré en Centrafrique. Certains ont même réclamé la démission de la présidente Catherine Asamba Panza et des deux autres têtes de la transition en reprochant de tirer profit de la situation, accusations qui ont été immédiatement rejetées. Dans son communiqué, le secrétariat général de la CEAC estime nécessaire le report de la fin de la transition afin de permettre à l'actuel gouvernement d'organiser les élections législatives et présidentielles crédibles et transparentes. Il souligne que cette décision est conforme au communiqué final de la 16e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEAC tenue à N'Djamena le 25 mai dernier, autorisant cette prorogation. Les scrutins, initialement prévus en juillet dernier, étaient impossibles à tenir en raison du manque d'organisation, de matériel électoral et de l'insécurité persistante, d'après les autorités de la transition. Un émissaire du secrétaire général de la CEAC se rendra à Bangui d'ici la fin de la semaine pour rencontrer les dirigeants intérimaires du pays.
Jacques Aristide, au Congo-Brazzaville, l'opposition ne ménage pas ses critiques après tout le dernier remaniement du gouvernement. Mais le nouveau ministre de la Communication, Thierry Mungala, rejette les allégations des opposants. Le point avec notre correspondant Brazzaville, Ngousou.
Pour l'opposant Clément Mirassa, ce nouveau gouvernement n'est plus qu'un regroupement du clan Sassou.
Tous les ministres qui disaient non au changement de constitution ont été sortis du gouvernement. Aucun jeune n'est rentré au gouvernement, aucun handicapé. Et il y a beaucoup moins de femmes, puisqu'il y a une femme qui est sortie. Elles étaient quatre, il en reste trois. Maintenant, la grande constatation, c'est qu'il y a un tiers des ministres qui sont de l'ethnie du président Denis Sassou Nguesso. Et quand vous observez bien ce gouvernement, tous les ministères dits de souveraineté, ce sont les personnalités qui appartiennent à l'ethnie du président Sassou, ce qui est extrêmement grave.
Nguela Ngoussou, Brazzaville, La Voix de l'Amérique.
En Afrique du Sud, les familles de 37 victimes des événements meurtriers de Marikana en 2012 ont déposé une plainte au civil contre l'État sud-africain pour demander un dédommagement afin de compenser la perte de leur soutien financier, ont indiqué leurs représentants légaux ce mercredi. L'organisation État islamique affirme avoir décapité le jeune croate travaillant pour une compagnie française enlevée en Égypte il y a 3 semaines. C'est en tout ce qui ressort d'une photo postée sur les sites djihadistes. Les détails avec Salwa Jafari.
VOA Afrique en direct de Washington.
Je vous le disais donc, l'organisation État islamique affirme avoir décapité le jeune croate travaillant pour une compagnie française enlevée en Égypte il y a 3 semaines. Les détails avec Salwa Jafari.
Si ce meurtre est confirmé, Tomislav Salopek serait le premier occidental exécuté en Égypte. 31 ans, père de 2 enfants, il travaillait comme analyste sismique depuis quelques mois pour une société française. C'était son dernier jour de travail quand il a été enlevé. Les ravisseurs ont posté sur un compte Twitter une photo montrant le cadavre d'un homme, un drapeau de l'État islamique et un poignard planté dans le sable. Ils affirment qu'il s'agit de Salopek. Vendredi dernier, la branche égyptienne de l'État islamique dans la province du Sinaï avait menacé de le tuer dans les 48 heures si le Caire ne libérait pas les femmes musulmanes emprisonnées en Égypte. Le Caire a pourtant engagé une vaste campagne militaire contre le groupe terroriste de plus en plus actif dans le désert égyptien.
Au Sud-Soudan, le porte-parole rebelle Stephen Parkour nie une scission dans le rang, mais il admet plutôt une défection de 2 généraux qu'il qualifie de mécontents. Selon la même source, ces 2 généraux ont été limogés dans la hiérarchie de commandement sans toutefois les éclure du mouvement.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
En Syrie, au moins 37 civils ont péri aujourd'hui dans des raids aériens de l'armée syrienne sur une région rebelle à l'est de Damas. C'est en représailles à des roquettes tirées par des insurgés sur Damas qui ont fait 13 morts selon une ONG. Les précisions avec Félix Yapassi Zembrou.
Les raids ont visé les localités de Douma, Sabka, Kafa, Batna et Amourie. L'Observatoire syrien des droits de l'homme, OSDH, donne aussi un bilan de 120 blessés. Cependant, le nombre des morts risquait de s'alourdir car de nombreuses victimes se trouvaient dans un état critique, précise l'ONG. Selon l'Observateur, plus de 50 projectiles ont été tirés sur plusieurs quartiers du centre de la capitale. Le ministère cité par la télévision officielle a indiqué que 8 personnes, dont une femme, avaient été tuées et 60 blessés mercredi à Damas par des tirs de roquettes provenant de secteurs rebelles autour de la capitale. Les quartiers résidentiels de la capitale sont régulièrement la cible de tirs de roquettes des combattants de la rébellion positionnés autour de Damas, alors que les forces gouvernementales mènent des raids aériens et des bombardements à l'artillerie sur les secteurs contrôlés par les insurgés.
Retour sur cette nouvelle du Soudan. Au sud du Soudan, hier donc, les généraux Gadé et Gavrouf ont annoncé qu'ils ont rompu avec les forces de Riek Machar, l'accusant de rouler pour ses propres intérêts. Et c'est ici, chers auditeurs, que nous mettons un point final à ce journal. Le prochain dans 50 minutes avec toujours Riek Manelakis à la présentation. Restez à l'écoute de VOA Afrique. Au revoir.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.